Vous écoutez France Culture.
Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Et on part ce matin pour une coopérative dans le Piémont, au nord de Gênes, à Valle Unite. Une petite visite en compagnie de Lucille Alloran.
Eh bien, on va aller visiter un peu les différentes structures de la coopérative. Donc, on peut commencer avec les étables, on a une vue panoramique sur les collines autour, et puis des étables, on a aussi la cave, la boucherie, la fromagerie, il y a la boulangerie aussi, c'est-à-dire juste un four avec une pièce pour faire le pain. Et voilà, on peut commencer en montant en haut de la colline, on arrive directement aux étables qui ont été la base de la coopérative en fait. Quand ils ont commencé l'idée de coopérative, avant d'être une coopérative, ils ont fait une petite société pour tenir ensemble les bêtes. Parce que les bêtes, il y en avait de moins en moins, ça coûtait, c'était pas rentable.
Ciao.
Au niveau de l'agriculture. Et eux, pour rester ici sur leur terrain et continuer à faire de l'agriculture, ils ont décidé de commencer par l'étable. Et puis petit à petit, ils ont mis aussi ensemble les
terrains. Parce qu'en se mettant à plusieurs, ça devenait plus rentable.
Exact, c'était l'objectif.
Et pourquoi ?
Ils ont commencé l'idée dans la fin des années 70. Là, on est en colline, donc l'agriculture intensive, c'est pas possible. Et puis tout le monde donc partait dans les villes, dans la plaine, en bas, à Tortona, pour travailler dans les usines où là, il y a une économie qui... Les sous rentraient plus facilement et en faisant moins de fatigue. Mais eux, ils avaient envie de rester faire de l'agriculture sur leur terrain. Donc ils étaient à l'époque trois paysans, fils de paysans, jeunes. Hein. Les premières idées, c'était 77. Après, en 80-81, le restaurant que vous voyez là, c'était une étable. Une fois qu'ils ont rentré tout leur foin à la fin de l'été, ça a pris feu. Et là, tous les gens des environs sont venus aider pour éteindre le feu. Et après, surtout pour récupérer du foin, ils sont montés en montagne. Et tous les gens, volontairement, on les a aidés à récupérer du foin pour l'hiver. Et de là est partie l'idée de la coopérative.
Ottavio Rube, vous êtes un des fondateurs de la coopérative Valle Unite. Est-ce que vous pourriez nous raconter le départ ? Je sais que vous étiez trois. Pourquoi est-ce que vous avez eu l'idée de fonder cette coopérative il y a 30 ans ?
Une des raisons principales était justement la récupération de l'orgueil paysan. À l'époque, en Italie, je pense plus qu'en France ou ailleurs, on vivait un moment où tout le monde quittait la campagne, les paysans ne se mariaient plus, n'avaient plus un rôle social, donc on traversait un très mauvais moment. Nous avions l'idée qu'en se réunissant tous les trois, et Carla tout de suite après, nous aurions mieux réussi à nous installer et à être fiers d'être paysans.
Vous l'appelez communauté, mais les gens parlent de coopérative.
Valle Unite est un ensemble qui réunit plusieurs choses. Il n'y a pas un mot pour l'expliquer. En partie, c'est une communauté, comme pour le déjeuner à midi, c'est le partage de certaines choses. D'autre part, c'est une exploitation agricole coopérative. C'est en partie une grande famille paysanne, parce que nos parents nous ont aidés. Donc ici, il y a un apport qui vient de ma famille, de la famille d'Enrico, de la famille de Carla, de Cesare, qui est mort. Donc ce sont trois choses ensemble.
Vous avez réuni les terres, c'est ça que vous avez fait ?
Oui, nous avons réuni les terres, non seulement les nôtres, parce qu'elles étaient peu nombreuses. En réalité, nous avions de petites exploitations agricoles. Donc nous avons réuni les nôtres, qui appartenaient à nos parents, et dont on a hérité. Et par la suite, nous avons pris plusieurs terres à bail. Nous les avons réunies. Pendant les premières années, nous avons restauré des terres en friche qui étaient abandonnées. Nous l'avons fait ici et par la suite, nous l'avons fait en montant, en hauteur. Nous avons restauré des pâturages qui étaient à l'abandon parce qu'il y avait cet exode des campagnes. Donc il y avait ces pâturages abandonnés. Par la suite, nous avons remis en état les étables, en bonne partie avec du bois de récupération. Disons que le mot italien récupéro est un mot qui est très lié à Valiunite et à notre histoire dès le début. À cette époque qui est désastreuse d'un point de vue économique pour le monde entier, ce mot récupéro est très important dans tous ses sens. Réhabilitation de l'homme, réappropriation de l'histoire, mais également la récupération dans un sens économique. Pendant des années, on nous a dit qu'il fallait toujours acheter plus, il fallait se baser sur le consumérisme. Et maintenant, on parle de décroissance. C'est un Français qui en parle.
La touche.
Oui, c'est la touche. C'est un type d'économie qui a toujours existé dans le monde paysan. Donc c'est très important. C'est très important parce qu'on dirait que, voilà, s'il y a 30 ans, le monde paysan a payé un prix aussi cher, et bien évidemment, je pense non pas aux gens comme moi, mais aux gens qui étaient avant moi. Il y en a beaucoup qui sont morts tout seuls dans des villages qui se sont éteints. Alors je disais, aujourd'hui, on dirait que le paysan a raison. Enfin, on parle aujourd'hui d'une économie que les paysans ont suivie pendant des millions d'années. Je pense que c'est une sorte de revanche du monde paysan au niveau mondial et au niveau européen, encore plus.
Donc là, on arrive aux étables.
Alors celle-là, elle a été construite après.
Après, ben non, il y avait déjà, ils l'ont construite ensemble et c'est divisé en deux parties. Il y a d'un côté les élevages bovins et de l'autre côté ovins. Les cochons, ils ont en dessous là, un parc de 2 hectares, il me semble. Après, les cochons, on transforme tout en divers salamis et toutes les charcuteries italiennes. Le jambon, on le fait pas parce que c'est pas du tout traditionnel de la zone.
On est en Piémont, c'est ça ?
Exact. Piémont oriental. Bah, c'est près de la Ligurie, c'est près de la Lombardie, et c'est côté de l'Émilie-Romagne aussi.
Quelle belle bête !
Ça, oui.
C'est une race particulière, ça ?
C'est une race particulière. On peut aller demander à Radou, qui travaille dans les étables, qui saura sûrement mieux dire que moi. Radou !
Buongiorno.
Radou, ça fait quelques années qu'il est ici. Il est ukrainien d'origine. La coopérative, il y a beaucoup de travailleurs de partout. France, Belgique, et Brésilien même en ce moment. Che razza è?
Piemontese.
Piemontese.
Si.
C'est la race locale.
Une des races locales.
D'accord.
On reste à l'entrée.
Bonjour.
On a les chaussures très sales, ouais.
Parce que là, je viens de chauffer le lait et j'ai mis les levures.
Pour faire quoi?
Alors, la levure, elle commence à travailler le fromage, non? Ça va donner la différence des types de fromage qu'on va faire. Pour chaque type de fromage, il y a une levure
différente. Ici, vous faites 3 ou 4 fromages différents, c'est ça, à partir du lait de vache?
Oui, bon, on fait du fromage avec le lait cuit et du fromage avec du lait cru. Ça, c'est le cru, non? Ça serait un taleggio. Après, on fait le yaourt, qui sont avec le lait cuit. Et avec le lait cru, on fait le taleggio, toma, le blu, castelmagno. Et un fromage qu'on appelle muffa bianca. Il n'y a pas un nom, c'est un fromage à nous, quoi. C'est celui-là qu'on a mangé hier soir.
Et vous avez appris ici aussi?
Oui, en fait, moi, ça... oui. J'ai appris ici d'une autre personne qui faisait avant moi. Et elle a appris un peu. Elle est allée un peu voir autre personne qui faisait du fromage. Et elle a commencé à faire ici, je pense.
Au début, c'était les trois familles qui ont travaillé ensemble. À quel moment est-ce que vous avez décidé d'ouvrir et d'accueillir des gens de l'extérieur qui n'étaient pas nécessairement des paysans?
Ci siamo aperti anni dopo,
nous nous sommes ouverts des années après. Au début, nous pensions faire quelque chose entre nous, également avec le village. C'est-à-dire que nous avons essayé d'impliquer tout le village, mais le village ne voulait pas réunir les terres. Il y avait de l'individualisme, de la peur. L'idée de s'ouvrir à d'autres personnes est venu quelques années après, peut-être lorsque nous avons décidé de faire de l'agriculture biologique. Donc l'écologie nous a donné cette idée. Au début, ce n'était pas comme ça. Nous voulions être paysans. C'était évident que c'était une activité propre et durable, alors que par la suite, nous nous sommes aperçus que ce n'était pas forcément le cas.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous êtes arrivé à l'agriculture biologique alors, puisque ce n'était pas...
Nous y sommes arrivés parce que nous avions l'idée de remettre en état les étables, restaurer les pâturages, reprendre l'élevage. Mais en même temps, l'économie de l'époque nous poussait à utiliser des herbicides. Et pendant 2 ou 3 ans, nous les avons utilisés. Mais tout de suite après, nous nous sommes demandé, est-ce que cela ne pose pas problème? Parce que oui, d'une part, nous faisions fonctionner une coopérative, mais d'autre part, nous utilisions des produits que nous n'avions jamais utilisés, des pesticides que nous n'avions jamais utilisés. Nous avons toujours pensé que ce mode d'exploitation en circuit basé sur un système presque toxique d'autosuffisance avec certains produits que nous vendions était très important. Donc l'élevage, les céréales et tout ça devaient répondre à tous les besoins sur l'exploitation. Et le vin, c'était ce qui pouvait nous faire connaître à l'étranger, à l'extérieur. En même temps, ça pouvait nous donner cette forme économique qui nous permettait d'investir afin de faire d'autres choses, par exemple, afin d'investir sur des jeunes. C'est quelque chose qu'on a fait en petite partie. En tout cas, c'était pour aider des personnes qui avaient un peu plus besoin que nous. L'ouverture a un rapport avec ça. C'est-à-dire qu'en parlant de biologique, d'environnement, nous nous sommes aperçus que s'intéressaient davantage les gens de la ville que les jeunes de la campagne. Donc nous avons commencé à considérer que probablement une expérience comme la nôtre pouvait intéresser davantage les jeunes de la ville que les jeunes des villages. Moi, j'y ai toujours cru personnellement. J'ai toujours pensé que la fusion entre ces deux cultures, celle de la ville et celle de la campagne, était positive. Alors que dans les années 60 et 70, il y avait eu une division très nette. Toi, tu es un citadin, moi, je suis un paysan.
Qu'est-ce que la ville pouvait vous apporter à vous ?
Pour ce qui en est de l'activité commerciale, le fait de pouvoir vendre le vin à l'étranger dans des pays très lointains, je pense que c'est quelque chose que le paysan normal ne sait pas faire. Le paysan normal ne voyageait pas. Donc s'il était convaincu d'une chose, même dans l'erreur, il continuait pendant 100 ans. Mais d'un point de vue économique, on disparaît. Si on ne s'évolue pas, alors qu'il faut une évolution. Et les gens qui viennent de la ville peuvent la porter bien mieux. Et après, d'un point de vue égoïste, il y a ce phénomène anthropologique. Les femmes quittaient toute la campagne. Les premiers à rester, c'était les hommes. Donc il y avait besoin de femmes.
C'est beau cette vue qu'on a là. Qu'est-ce que c'est le village qu'on aperçoit ?
C'est une des fractions du village. Alors, on est ici à Costa Vescovato, qui est le village sur la colline là-bas. En dessous, ici, à Montalecelli, en face, Cereto, Arpicella. Et il y a encore une autre fraction qui est Sarizzola. Sur ces quatre fractions, c'est le village, la commune de Costa Vescovato. Il y a 300 habitants.
C'est petit, mais le territoire est grand.
Il y a beaucoup de maisons vides aussi.
Et du coup, vous, les membres de la coopérative, vous trouvez assez facilement à vous loger dans les villages alentours ?
C'est pas forcément évident parce que la beauté des collines, là, ça a été aussi très préservé. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de tourisme, pas beaucoup de développement de tourisme, ça a commencé ces dernières années. Mais c'est aussi peut-être dû au fait que les gens des collines ont du mal à louer une maison, par exemple. C'est tout bête. Ils les gardent vides. Ça, c'est un peu le revers de la médaille. Mais du coup, ça a permis de préserver les collines assez sauvages, parce que c'est très joli, et il y a encore l'agriculture, et il y en a beaucoup qui le comparent à la Toscane, sauf que c'est beaucoup moins carré.
Carré, les maisons ?
Non, le paysage. La Toscane, c'est très propre, très... Ah, alors oui. Qu'ici, c'est encore varié, il y a un peu des bois, un peu des champs, un peu des vignes, un peu de... Voilà.
Un paysage un peu mal coiffé, quoi.
Ouais.
Voilà la cave. Buongiorno.
Ça, c'était la cave de famille. Ouais. De la famille de Ottavio. Ici, on a isolé pour réchauffer les vins qui ont du mal à faire la fermentation malolactique. La cave, elle reflète assez l'histoire de la coopérative. Parce qu'au début, quand ils ont mis ensemble leurs vignes, ils faisaient le vin un peu dans la cave ici, un peu dans la cave au village d'un autre associé. Et c'était difficile de gérer toutes les fermentations, tous les vins. Donc après, on voit que la cave, elle s'allonge. Il y a la partie un peu plus neuve qui s'est ajoutée. Puis après, encore une prolongation dehors pour réussir à mettre ensemble les vins de toutes les vignes.
C'est une vraie construction. Et les vignes, il y en a de plus en plus ou c'est les vignes du départ ?
Il y en a peut-être un peu plus qu'au départ, mais on s'arrête autour de 20 hectares.
20 hectares. C'est un choix, vignes, c'est une décision.
C'est un choix, ça suffit pour faire tourner toute la coopérative. Parce que finalement, l'économie de la coopérative, elle repose beaucoup sur le vin. L'élevage, les champs, c'est pas forcément rentable.
Oui, puisqu'au départ, c'était l'élevage, vous avez dit.
Exact. Et pour rentabiliser un peu toute l'histoire, ils ont mis ensemble aussi leurs vignes.
Et à partir de là, ça a pu...
Et à partir de là, ils ont eu plus d'indépendance économique.
Alessandro Poretti, c'est vous qui vous occupez du vin à Valle Unite ?
Si, ho iniziato... Oui, oui. J'ai commencé il y a 6 ans à m'occuper du vin. Enfin, 5 ans exactement. Ottavio est passé et il m'a expliqué comment on travaillait dans une cave. Ensuite, j'ai étudié toutes les techniques modernes de vinification, mais ce n'était pas une chose qui m'a vraiment plu. Et il se trouve qu'en Ottavio, j'ai trouvé la possibilité d'avoir ce transfert de savoir, de connaissances. Après quoi, j'ai appliqué mes connaissances scientifiques à ce que lui m'avait expliqué, ses connaissances pratiques donc, et ses connaissances pratique, j'ai appliqué tout ça aux exigences de la coopérative.
Ma io penso che la scienza sia importante, le conoscenze.
Le côté, toute la partie connaissances scientifiques est importante, mais il faut appliquer tout cela de la bonne manière, de manière juste. Donc, j'avais une petite connaissance de toutes les méthodologies, la biologie du vin, mais dans l'industrie moderne, ces méthodes sont très mal appliquées. On les utilise pour essayer de trafiquer la nature, pour augmenter le rendement et pour obtenir un produit tel qu'on le souhaite sans se fonder sur une base naturelle. Voilà, donc j'avais appris toutes ces choses-là, mais ça ne me plaisait pas. Et à ce moment-là, Ottavio est arrivé, c'est lui qui m'a transmis toutes ces pratiques manuelles. Il m'a expliqué comment utiliser les outils simples, des instruments très simples, les pompes, les seaux. Et puis, il m'a expliqué aussi comment faire fonctionner la tête pour épargner tout un tas de choses. Donc, l'un plus l'autre, ça m'a permis de faire progresser ce projet. Et mon objectif, c'est de refaire un vin naturel, comme le faisaient les agriculteurs il y a 100 ans, en produisant quelque chose de sain grâce aux connaissances scientifiques dont on dispose, utilisation par exemple de tout ce qui est matériaux contre l'oxydation, respect des délais, etc., des choses qui n'existaient pas il y a 100 ans.
J'imagine qu'il faut d'abord avoir une idée précise du goût que vous cherchez pour le vin et ensuite imaginer comment arriver à ce goût sans utiliser tous ces produits synthétiques, chimiques, de conservation que vous avez évoqués.
Ma nella mia testa quando penso al vino che dovrà venire nell'annata.
En fait, moi quand je pense au vin que je veux faire une année particulière, Je ne cherche pas une idée sur le marché, une tendance, ou je ne me dis pas, tiens, d'ici 2 ans, le marché va avoir tel ou tel type de vin. Pas du tout. Moi, mon travail, c'est un accompagnement du raisin. C'est comme ça que je vois les choses. Et je suis très contente parce que d'ailleurs, le raisin est excellent, les gens travaillent bien, les gens connaissent bien le vin et travaillent avec passion, de sorte que ces 5 dernières années, le raisin était absolument superbe. On n'a pas eu besoin d'utiliser quelques produits que ce soit, mais je ne me pose pas la question de savoir à quoi va ressembler le vin une fois fait. Je le transforme avec les connaissances que j'ai, c'est-à-dire que si tel ou tel vin a des analyses de pH, d'acidité, de valeur alcoolique, de telle ou telle manière, je me dis, voilà, ce vin, je peux l'embouteiller ou pas. Il va durer de 2 à 5 ans, puisque je pense que 2 à 5 ans, c'est une bonne durée de garde pour un vin. Moi, je n'ai pas envie forcément de faire des vins de garde qui vont durer 20 ans. Après, si le vin vieillit bien, tant mieux. Mais jusqu'à présent, le vin sans sulfite que j'ai pu faire, donc vin naturel, il date de 2007 et il s'est bien conservé, ce qui veut bien dire que mes théories sont plutôt justes. Après, le problème du produit est compliqué parce que le goût des gens change énormément. La mode dans le vin, c'est quelque chose d'incroyable et très fugace. Ça change très, très vite. Malheureusement, devoir se dire, tiens, d'ici 3-4 ans, à quoi devra ressembler le vin, c'est quand même assez gênant. Donc, c'est une chose dont j'ai parlé avec Ottavio très, très souvent. Et on s'est dit, faisons-le. Et puis, après, parmi tous les gens qui sont présents en dehors de chez nous, on va forcément trouver quelqu'un à qui ce vin va plaire. Ces 3 dernières années, il est vrai qu'on est passé d'une volonté d'avoir des vins frais à des vins légèrement oxydés. Ensuite, on a voulu des macérations courtes, puis des macérations longues, en ajoutant du bois, mais du bois jeune, ensuite sans bois. Donc, c'est quand même, les tendances passent très vite en matière de vin. Et quant au type de vin blanc-rouge, je dois vous le dire, j'ai un recul de 7 à 10 ans et je dois dire que pendant 10 ans, c'est un type de vin qui plaint et ensuite, ça sera l'autre.
C'est notre atelier en ce moment, on l'utilise pour faire les salici. Les salici, c'est des saules. On utilise le saule pour lier la vigne.
Et donc, ça veut dire faire les saules.
On fait donc des...
Des fagots.
Des fagots de saule, qu'après on se lie à la ceinture. Et au moment de lier la vigne...
On tire les brins un par un.
On tire les brins un par un et on lie avec ça. Donc ça, c'est une méthode très traditionnelle. Je pense qu'ils faisaient déjà ça il y a 500 ans. Qu'on doit être parmi les derniers à utiliser encore parce que c'est économiquement, c'est plus rentable, évidemment, puisqu'il faut aller couper les arbres, il faut les nettoyer. Je pense qu'autrefois, ils se mettaient autour du feu le soir et ils faisaient ce travail.
En fait, c'est de l'osier. C'est des brins d'osier.
Oui. Nous, on continue ça parce qu'on est assez nombreux et que ça nous plaît. En hiver, on se met là, tous autour du poêle et on papote. Les journées où on ne peut pas sortir, où il pleut, où il neige, on fait ce travail-là. Ça crée de l'économie. Économiquement, ce n'est pas rentable, mais ça crée quand même du travail. Donc, on s'y retrouve au bout du compte.
Les vaches à lait ?
Les vaches à lait.
Ah, il n'y en a pas beaucoup ?
Non, c'est une petite production qui est toute transformée sur place. Bon, on vend un peu le lait et ils font du fromage, des yaourts. Pratiquement tout vendu sur le... On a donc un magasin à la ferme, ouvert tous les week-ends, du vendredi au dimanche. Où on vend nos produits, donc la viande, les farines...
Le vin.
Le vin... Mais aussi d'autres produits, d'autres producteurs de biologiques de la zone pour les fruits et les légumes. Et divers produits, c'est un peu une épicerie, on trouve un peu de tout. Donc d'autres produits bio ou éco-équitables.
Vous ne faites pas du tout de fruits et de légumes ?
On en fait, on a un potager, mais c'est consommation interne. Pour le restaurant et pour les différents associés. Donc ça c'est une vigne de Barbera de 3 hectares qu'on a plantée en 2003. Elle a eu du mal à partir puisque 2003, c'était l'année de la sécheresse. Il n'y a pas que du Barbera dans la zone, et d'ailleurs dans cette vigne non plus. On a eu Barbera, Dolcetto, ça c'est les principaux rouges qu'on retrouve dans tout le Piémont. On a aussi ici la Croatina, Moreto, c'est des cépages très locaux. Et en blanc, Cortese, qui est aussi un peu dans tout le Piémont. Et la spécialité des Colli Tortonesi, c'est le Timorasso. Ça donne un vin blanc de grande structure qu'on garde pour avoir l'appellation. On le garde un an en cave avant de le mettre en bouteille. Et ça accompagne les fromages, un peu secs ou pour l'apéro. Mais c'est en général un vin assez costaud de garde.
Ce sont des cépages qui sont vraiment piémontés, tout cela.
Oui, oui. Au fond, là, on aperçoit ce qu'ils appellent les calanques. Qui ne sont pas des calanques en français. Mais c'est des éboulements de terrain un peu plus sableux. Ça donne des paysages un peu lunaires.
Et en même temps, très italien. Est-ce que vous avez organisé l'autonomie de l'endroit, de Valle Unite ?
L'autonomie de Valle Unite, je pense que nous avons beaucoup copié.
Pour ce qui en est de l'autonomie de Valle Unite, nous avons copié la famille paysanne. Nous n'avons pas vraiment inventé grand-chose. Si vous observez une famille paysanne dans le Piémont et dans une grande partie de l'Italie jusqu'aux années 50, la production permettait d'être autosuffisant à 70% à 80%. Il y avait peu de choses qui manquaient. Il manquait l'argent pour envoyer les enfants à l'école, pour aller chez le dentiste si on avait une rage de dents ou pour aller chez le médecin. Et ce sont les mêmes choses qui nous manquent. Donc ce n'est pas très différent en somme. Dans les années 70, on voulait que l'exploitation agricole ne produise qu'un bien, un bien qui était destiné au marché. On courait après cet esprit d'entreprise. Chacun ne devait produire, par exemple, qu'une tasse et uniquement cette tasse. Il ne veut pas s'occuper du reste.
Donc,
d'après ce schéma économique, nous n'aurions dû produire que du vin ou alors que du blé. Alors que la famille paysanne pensait d'abord à l'autosuffisance. Et après, elle essayait de vendre certaines choses pour pouvoir se rendre chez le médecin ou pour pouvoir aller au restaurant de temps en temps. C'était un surplus qu'on pouvait produire. Nous, nous avons fait ça sous une forme communautaire. Mais la coopérative est très liée à l'économie, bien plus que nous ne le sommes.
Alors justement, comment est-ce que vous fonctionnez? Est-ce qu'il y a des salaires? Est-ce que les gens sont payés en fonction de, du temps qu'ils restent ici?
Les gens sont payés en fonction des heures travaillées. En fait, il y a eu trois phases. Au début, nos parents nous finançaient, c'est-à-dire que nous avons travaillé 2-3 ans sans être payés. C'était le début, comme toujours au début. On pouvait le faire parce que nos parents travaillaient encore pour nous. Nous n'avions que 20 ans, 23 ans, nous n'avions pas d'argent mis de côté. Par la suite, il y a eu une deuxième phase où il y avait un minimum égal pour tous. Et après, il y a eu une troisième phase qui est toujours la même aujourd'hui avec certains aménagements. Les gens sont payés à l'heure, d'autant plus que certaines personnes, par choix ou par exigence, ont besoin de faire un grand nombre d'heures. D'autres souhaitent, par contre, ne travailler que 2-3 heures. Donc, sur la base des heures travaillées, on peut gagner plus ou moins.
Il va livrer les amas, les gaz.
Les groupements d'achat solidaires?
Exact.
Les groupements d'achat solidaires. Solidaires de quoi? Explique en quoi ils sont solidaires.
Quelles qui donnent le gaz.
Ce sont ceux qui mettent les gaz. Ce sont des familles qui se réunissent pour faire leurs courses directement auprès des exploitations agricoles. C'est ça le principe, c'est d'avoir un rapport direct entre le producteur et le consommateur.
Le pain est cuit dans le four à bois.
Il n'est pas immense comme four?
Il n'est pas immense, non, il fait plusieurs fours. Et bon, ils font cuire dedans aussi, pas que le pain, hein. De temps en temps, il y a les soirées pizza, il y a tout ce qui peut se mettre dans un four, il passe.
On va faire un tour à la boucherie.
Alors, ce que font les bouchers.
Bonjour.
Bonjour. Tanto poi
devo lavare. Si? Grazie.
Questi cosa sono?
Questa qui è la coppa.
La coppa.
C'est de la coppa.
La
coppa de porc. Là, ce sont tous des saucissons, des saucissons cuits, des petits saucissons. Pas mal. Nous en avons.
Combien de porcs toutes les semaines? Quanti porchi?
Nous abattons 4 porcs tous les 15 jours.
All'incirca in un anno facciamo circa dai 65-70 maiali.
Nous faisons entre 75 et 70 porcs par an. Nous travaillons d'octobre à mars, maximum jusqu'au mois d'avril.
Et vous disiez que vous ne faisiez pas de jambon, mais du coup vous avez aussi du porc frais ou
Non, on met tout dans le saucisson. Donc d'accord. Ça donne des saucissons très particuliers. Vraiment.
Ah, des saucissons de jambon.
Nobile. Ouais. Ils appellent ça salame nobile, parce qu'il y a aussi les parties nobles du cochon qui vont dans le salami. On goûtera ça à midi, hein, à la cantine.
Grazie. Giovanni Mustica, vous êtes arrivé ici il y a 9 ans à peu près?
Da 9 anni, sì. Quindi
oui,
sono
oui, 9
nella
ans.
Fase praticamente non sono più
Donc, je ne peux plus dire aujourd'hui que je sois un jeune. Les derniers arrivants sont là depuis une année à peu près. Donc, quand on est là depuis 9 ans, on a pris des responsabilités, on a pris ses marques.
Et vous étiez agriculteur déjà avant?
Non, assolutamente.
Alors non, pas du tout, j'étais photographe. J'ai presque envie de rire parce que c'est tellement différent ces deux métiers. Diversi, mais bon, j'ai choisi de me rapprocher de la terre principalement à cause de l'alimentation. C'est-à-dire que je ne voulais plus aller faire mes courses dans la grande distribution. Et donc la première question que je me suis posée, c'était la suivante. Je me suis dit, est-ce que je peux me rapprocher de la terre?
Donc la solution, c'est vraiment d'aller soi-même produire ce qu'on veut manger.
Bah, questa è la mia soluzione.
Oui, c'est ma solution à moi en tout cas. Parce que des solutions, il y en a beaucoup. Mais il est vrai que le fait de devoir produire soi-même les choses, ça amène à vivre les choses au quotidien.
Il lavorare con una faccenda che era completamente.
On travaille avec un regard complètement différent par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant. Une culture différente, dans un autre lieu, on reprend depuis le début et on se remet complètement en cause.
Et pourquoi est-ce que vous avez choisi Valle Unite, la coopérative de Valle Unite? Qu'est-ce qu'il y avait de particulier ici?
Ma è stato un caso.
Je dirais que ça a été un peu le hasard. J'habitais à 100 km d'ici et pour trouver ce lieu, j'ai dû faire 3 à 4 000 km. J'ai fait le tour un peu des communautés autosuffisantes, pas vraiment des coopératives agricoles, plutôt des communautés autosuffisantes. Mais j'avais déjà 33, 34 ans et le fait de changer complètement ma façon de vivre et mes habitudes, c'était quand même un peu difficile, d'où le compromis de la coopérative. C'est un bon compromis entre ce que peut être une entreprise agricole productive et puis une communauté. C'est-à-dire que dans une communauté, il n'y a pas de contrepartie économique ou financière. On travaille autour de l'autosuffisance exclusivement, ce qui implique des rythmes complètement différents. Alors que dans une coopérative, puisque une coopérative, c'est à la fois un peu une exploitation agricole, à la fois une communauté, là, on a une espèce de contrepartie économique ou financière. Il y a une économie.
Mais la coopérative n'a inventato assolutamente un'economia.
Alors, la coopérative n'a rien inventé. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le modèle coopératif, c'est plutôt l'aspect collaboration et partage des responsabilités. Mais pour autant, on n'échappe pas à certaines règles économiques. Les règles de l'économie, ce n'est pas nous qui les fixons. Donc, si vous voulez, le jeu reste produire puis vendre.
Et si maintenant, on ne parle plus de l'économie, mais des façons de travailler, qu'est-ce que vous avez appris ici qui est particulier?
La cosa interessante che
Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que le côté humain prend le pas et continue d'avoir plus d'importance que le travail. Alors, oui, on a parlé d'économie à l'occasion, bien sûr, mais parfois, on a fait passer en premier les rapports humains, la relation à l'autre. Et la difficulté qu'on a pu rencontrer ces 4-5 dernières années, c'est-à-dire pendant la phase de relève, de changement de génération, la chose importante, c'est précisément la possibilité d'exprimer les critiques, d'avoir un débat. Parce qu'on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de ligne commune actuellement. Il est important d'avoir un débat, de pouvoir avoir une discussion. Il faut élaborer une nouvelle base pour un second souffle pour cette nouvelle génération.
Ce
que je pense, c'est que pour eux, l'intérêt, c'était créer un lieu comme celui-ci. Imaginez, c'était il y a 30 ans. En soi, c'était déjà un objectif, créer ce lieu. Alors que pour nous, l'objectif est différent. Et il reste peut-être à définir d'ailleurs.
Per esempio, non so, non se ne parla poco.
Je sais pas, par exemple, on en parle peu, mais lorsque l'on parle de bio, le biologique n'est pas suffisant. en tant que tel. Ça ne suffit plus d'élever un animal avec une alimentation biologique, parce que derrière, il y a tout le discours lié à l'environnement. Quelles sont les conséquences qui sont liées à l'entretien d'un animal? Entretenir l'animal et le faire vivre, c'est produire de l'herbe qu'on va entretenir avec un tracteur qui marche au gasoil. Il y a donc un impact sur l'environnement. Or, ce sont des choses dont on ne parle pas pour l'instant. Alors, l'agriculture biologique, c'était un objectif, il est atteint aujourd'hui, mais nous, maintenant, nous sommes à une autre étape qui doit aller au-delà du biologique.
Et là, pour cette nouvelle phase, tout le monde n'est pas d'accord.
Alors, dans cette nouvelle phase, il y a une partie des gens qui sont intéressés par cette réflexion, alors que d'autres ne sont pas du tout dans cet esprit, ce sont des questions qui ne se posent même pas, n'ont pas la curiosité d'aller au-delà de ce qui a été fait.
Aujourd'hui, il y a le sentiment qu'il y a besoin d'évoluer. Et toute la question, c'est jusqu'où est-ce qu'on peut aller ? Jusqu'où est-ce qu'on peut changer les choses sans briser le lien avec l'origine ?
Alors, prima di tutto che il tempo è passato,
effectivement, avant tout, bon, il est vrai, le temps a passé, mais le temps a passé pour eux aussi, y compris les fondateurs.
Gli anni a loro e anche quello che ci circonda e poi
si vous voulez, les choses ont changé dans ce qui nous entoure. Aujourd'hui, en plus, nous sommes 35, donc il y a vraiment une question de nombre. Elle est extrêmement importante, cette question du nombre. Plus il y a des choses qui se passent, plus il est difficile de les gérer et d'avoir une ligne et une relation qui nous permette de dialoguer et de voir les choses de manière positive, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça le défi.
Alors, est-ce qu'il y a la volonté de limiter le nombre de gens qui viennent ? Est-ce que vous avez décidé qu'un jour, vous allez arrêter ?
Non, ce lo siamo mai chiesti, però
non,
oggi io
c'est une question que nous ne nous sommes jamais posée jusqu'à présent. Pour ma part, je pense qu'aujourd'hui, vu notre économie, la nécessité d'avoir un petit salaire pour pouvoir vivre, je pense que vu ce contexte, nous sommes arrivés à une limite, mais la coopérative a un énorme potentiel. Nous sommes reconnus et connus, nous pouvons faire et construire tout à fait d'autres secteurs où on pourrait avoir une croissance. Et là, il va falloir ouvrir le débat et se poser la question. Est-ce qu'on veut agrandir la famille ou est-ce qu'on veut rester à 30-35?
Et il y a suffisamment de terre aussi?
Le
problème, ce n'est pas vraiment les terres disponibles, c'est plutôt la manière dont on va exploiter, pour ainsi dire, la terre. Donc, ce qui est intéressant dans une coopérative, c'est que tout ce que nous produisons, nous transformons notre propre production quasiment. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cela nous permet de vivre cette fameuse transformation des produits. C'est ce qui nous permet de vivre, nous tous ici. Exemple, le voisin, mon voisin qui a la même quantité de vignes que moi, ils sont à deux pour travailler. Nous, nous sommes 13, 14. Donc, le mode de production, la conception, tout ça doit être réfléchi pour arriver à un modèle économique ou à une pensée économique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Qu'est-ce que vous faites, vous, comme travail, Giovanni Mustica?
Alors moi, je fais le pain une fois par semaine. Après, pendant 3-4 mois chaque année, je m'occupe donc des champs, herbes, fourrage, céréales. Je cultive donc et je récolte dans les champs. Après, je fais les marchés. Je vends toute notre production sur les marchés bio. Et de septembre à avril, je donne un coup de main pour tout l'abattage, la transformation donc de la viande de porc en l'occurrence. On fait tout ce qui est saucisson.
Vous avez choisi tout ça ?
Oui et non. C'est-à-dire que lorsque l'on a un objectif et qu'on croit en quelque chose et dans un groupe, on croit en une coopérative, on est prêt. En tout cas, moi, je serais prêt à faire quasiment tout pour la coopérative. Donc parfois, je n'ai pas d'état d'âme, je ne me demande pas si ça me plaît, si ça ne me plaît pas. Le travail, je le fais parce que c'est nécessaire et qu'il doit être fait. Donc, tant que j'ai cette force, et aussi longtemps que j'ai cette force qui me permet de voir les choses comme ça, de les prendre bien, faut pas oublier que je ne suis pas née dans un milieu paysan. Donc, tout ce que je fais, c'est l'apprentissage, c'est une école où j'apprends des choses. Et donc, je prends les choses comme ça. Ça sert à la coopérative, et moi, ça me sert à moi, parce que j'apprends des choses que je n'ai jamais faites. Donc, c'est un moyen d'acquérir des choses, d'apprendre un nouveau métier. Au début, c'est comme ça. Lorsqu'on arrive dans la coopérative, c'est comme ça qu'on voit les choses. On va choisir, en tout cas partiellement, le travail qui vous intéresse. Au bout d'un certain temps, les nécessités font qu'on passe à une autre étape. Et dans cette deuxième étape, on se dit comment faire croître ou assurer la croissance de la coopérative, comment est-ce que je peux aider. Et à ce moment-là, on se dit qu'on va faire des choses qu'on n'avait jamais pensé devoir faire un jour. Mais c'est important. Il est important que l'on choisisse son travail. Parce que si on l'a choisi, ça veut dire qu'on va le faire certainement mieux que ce qu'on n'aime pas faire ou celui qui n'aurait pas aimé faire ça. Donc, moi, pour l'instant, en ce moment, je n'ai pas vraiment le choix parce qu'on manque de personnel à l'heure actuelle. Donc, je n'ai pas vraiment de questions à me poser pour l'instant. Mais bon, ce n'est pas vraiment mon travail, ça c'est certain, et je ne vais pas faire une longue carrière certainement dans l'abattage.
La nostra vignaiola da... Quanti anni che sei qua, Lucilla?
10
10 anni? Ah, minchia. Passa,
minchia.
L'idea è una cosa, l'ideale è una cosa, la pratica...
La teoria è una cosa, la pratica... C'en est une autre. Il y a eu plusieurs jeunes qui ont fait ce choix. Ce choix de travailler à la campagne en quittant la ville au début des années 80. Il y a eu un fort mouvement en Italie de la part de personnes qui avaient certaines idées politiques, des personnes qui sont venues à la campagne. Mais c'était une expérience difficile parce qu'il manquait justement d'expérience, de l'expérience du travail agricole. Et donc cela a créé pas mal de difficultés à ces personnes. Et à certains moments, les expériences se terminaient. Il y a très peu de personnes qui ont réussi à aller de l'avant. Mais le travail agricole a une autre dimension. On organise la vie d'une façon tout à fait différente. Pendant les temps libres et pendant le reste du temps. Alors quelqu'un qui connaît la vie de la ville ou qui connaît la vie de bureau ou la vie à l'usine, eh bien, constate que la vie agricole est une réalité tout à fait différente. On décide de faire une chose aujourd'hui et par la suite, on ne peut pas la faire. Il faut tout changer parce qu'il faut suivre la météo. Mais c'est quelque chose qui est à l'intérieur de chacun si on le vit. Pour nous, c'est quelque chose de normal parce que nous sommes nés ici, nous avons grandi dans cette situation, nous avons compris, nous avons vu. Mais une chose, c'est nous et une chose, c'est ceux qui doivent apprendre. C'est bien plus difficile. Je le constate même chez des jeunes qui ont fait l'école. D'école agricole. Une chose, c'est les études, une chose, c'est la vie pratique. Et il y en a qui sont très bons, mais ce n'est pas le cas de tout le monde.
Toutes les vignes sont en coteaux ici. Hein.
Et c'est les collines. Hein.
Eh oui.
Le Piémont, c'est. Juste derrière, il y a les Apennins, il y a la montagne, il y a des pistes de ski à une demi-heure d'ici. Encore la neige.
Oui, un petit peu.
Ici, c'est une très vieille vigne. Et on a replanté et on a fait une espèce de musée de vigne où il y a plusieurs variétés de raisins. Dans les trous, donc là,
c'est. Mais vous en faites quelque chose ou c'est plus démonstration?
Non, c'est plus un petit musée, c'est pas très grand. Hein.
Un petit conservatoire.
Voilà. La taille, c'est toujours en Guyot. une taille en guyot, en général, dans la zone, ils font guyot simple. Et après, on lit donc avec le saule,
ah oui,
l'osier. On tire les bois. Et à la taille, on suit en général l'évolution de la lune. Parce que, par exemple, pour les vieilles vignes comme celle-ci, on va chercher la lune croissante qui tire la sève et aide à développer. Sur des vignes jeunes ou sur le blanc qui ont tendance à avoir un développement foliaire un peu fort, on va tailler quand il y a la lune décroissante. C'est un peu de la biodynamie, mais...
Mais oui, j'allais le dire.
Ils utilisent ce principe aussi, mais c'est surtout très empirique. C'est des générations et des générations qui sont rendues compte de cette...
C'est-à-dire que ce n'est pas par la biodynamie,
non,
que vous êtes arrivé ici à ça, mais parce qu'Ottavio, dans sa famille, on avait toujours fait
exact.
Ça.
Exact.
Penso che se crollasse l'economia completamente.
Je pense que si l'économie s'effondrait complètement, pour Valunite, ça pourrait être même une chance. Le fait de pouvoir vivre sans argent, probablement, ou de pouvoir vivre en étant plus autosuffisant, serait un grand pas en avant que nous n'avons pas encore fait. D'entre nous ont encore trop besoin de la voiture, du supermarché. Parfois, ils ont besoin d'aller à la mer. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait plus aller à la plage, mais je pense qu'on peut faire un grand pas. Et si l'économie s'écroulait, ben bien, c'est clair qu'on ne pourrait plus vendre du vin et on ne pourrait plus construire une structure comme celle-ci. Nous pourrions le faire avec un autre système différent. Mais je pense qu'on devrait pouvoir y arriver. Si je cherche une source d'inspiration, je peux faire une comparaison avec les couvents, les monastères. Parce que dans les monastères, on ne créait pas de la richesse, mais on construisait beaucoup. On générait du bien-être. On créait de bonnes choses, la bière, le vin, plein de choses ont été conçues et produites dans les monastères. Des choses très voluptueuses aussi. Bonnes à manger, les amaretto, pensons à certaines recettes de certains liqueurs. Valunite est un endroit où on a retrouvé certaines saveurs qui risquaient d'être perdues. Et si dans les monastères, ils faisaient ça sans communiquer avec l'extérieur, sans l'argent, nous le faisons avec la monnaie, avec l'argent, nous le faisons dans le marché en respectant ces règles. Mais je pense qu'on est à moitié dedans et à moitié à l'extérieur. Aujourd'hui, il faudrait peut-être se poser la question, est-ce qu'on n'est pas trop dedans ?
Voilà, vous trouverez des renseignements sur la coopérative Valunite en allant sur Internet et puis vous pourrez évidemment réécouter cette émission sur notre site franceculture.fr où vous retrouverez également notre revue de web hebdomadaire. Vous pouvez également nous téléphoner au 01 56 40 36 72 ou nous écrire à Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation Laurence Chenepin, Anne Gouzon, traduction Hélène Joguet-Lecointre et Antonio Casadio-Loretti, mixage Marie Le Peintre, réalisation Vincent Abouchard. Bonne semaine à tous.